19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'épaisse fumée a enseveli la ville et bien au-delà. Suie noire et collante, s'immisçant dans chaque interstice et que les archéologues retrouveront très certainement dans quelques millénaires. Ni Krakatoa ni Vésuve, encore moins Pyromanes invasion barbare, cette fine cendre est le pur produit d'un de nos 744 sites Céveso, Lubrizol crachant feu et flamme le 26 septembre sur Rouen. Église rasée, façade dynamitée voire sainte brûlée, la grande cité normande a vécu par le passé bien d'autres heures tragiques dont les archéologues exhument les traces. Justement, ils œuvraient peu avant ce terrible incendie à la rénovation de son centre historique. À l'invitation de Sylvain Mazet de l'INRAP, je m'étais rendu sur le terrain voir l'église de la Madeleine, à tout jamais disparue, comme l'exceptionnel être Saint-Maclou, merveille rescapée du XIVe siècle.
Bénédicte Guyot, nous venons de franchir la rue Rollon, la rue Jeanne d'Arc, bien entendu. Rouen aurait quelle épaisseur archéologique ?
La ville ayant à peu près 2000 ans d'existence, on peut atteindre les 8 mètres. Entre notre niveau de sol maintenant, quand on marche, et le premier niveau qui date à peu près de la période augustéenne, c'est-à-dire tout au début de la période antique.
Ces 8 mètres, c'est quoi ? Ça se compose de quels matériaux ?
On a un peu de tout, c'est-à-dire on a des murs qui restent, des anciennes caves par exemple, qui ont simplement été comblées et puis on a reconstruit par-dessus. Et puis de temps en temps, il y a des niveaux de remblais ou de démolition quand on arrive sur des périodes un peu plus problématiques pour la ville, de guerre par exemple. Donc c'est détruit, donc on remet tous les remblais de destruction et on reconstruit par-dessus. Donc on a un peu des murs et du remblais et des poubelles.
Et alors les poubelles, c'est peut-être quelque chose de très particulier à Rouen, ça porte même un nom ces poubelles ?
Oui, on a des charges publiques qui sont nommées des heures, qui vient de l'ancien français « our » qui veut dire « monticule ». Donc ça donne vraiment le côté des charges publiques dans lesquelles on emmène les poubelles dans des sortes de grands chariots. Et donc c'est vraiment une politique publique, c'est-à-dire on paye des gens pour récolter les poubelles à l'intérieur de la ville, donc de la ville close. Ça commence à se mettre en place à la fin du Moyen-Âge, mais c'est surtout au XVIe siècle qu'on commence à prendre en compte les dangers des poubelles qui sont dans les villes. Donc c'est vraiment une gestion des déchets qui est intéressante, puisque ça fait écho à maintenant. On a à peu près les mêmes problématiques. Où est-ce qu'on les met ? Qu'est-ce qu'on emmène ? Et qu'est-ce qui peut être recyclé ?
Ces heures, on y opère des tris ?
Oui, on se rend compte que, alors soit avant, soit même sur place, il doit y avoir des sortes de chiffonniers qui récupèrent tout ce qui est recyclable. Donc c'est surtout les matériaux, tout ce qui est métallique. Par exemple, on a très peu retrouvé d'objets en fer ou métallique très gros. Donc on récupère tout ce qu'on peut. On récupère aussi, par exemple, la peau des animaux morts. On a pu mettre en évidence un chien de compagnie, donc très beau chien de race, mais la peau avait été prélevée sur place. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que le chien était mort, on l'avait jeté dans les poubelles et quelqu'un avait récupéré la peau.
Ce que vous trouvez aussi, bien sûr, c'est de la céramique, du verre, tout ce qui ne peut pas être recyclable.
Oui, bien sûr, on a énormément de fragments de céramique, énormément d'ossements animaux aussi, puisque tout ce qui est rejet soit d'artisanat, on a des rejets d'artisanat de cornetiers, donc c'est ceux qui récupèrent la corne pour faire les peignes, les boutons, des choses comme ça. Donc c'est un petit artisanat qu'on a du mal à cerner en ville. Et là, ça permet, en les retrouvant dans ces décharges publiques, de savoir à peu près dans quel quartier ils pouvaient se trouver.
Toutes ces activités sont à l'intérieur de la ville, donc on a plein de petits métiers comme ça, on pourrait dire de peau de lapin.
Oui, c'est tous ces petits métiers-là qu'on sait qui existent, qui sont souvent en guilde, donc qui sont souvent, c'est des rues entières qui sont composées de ces petits métiers-là, mais dans lesquels on n'a aucun renseignement, parce que ce sont des petits métiers. On sait que les entreprises très polluantes sont là, rejetées hors la ville, mais ces métiers-là, là, ça nous permet d'avoir un indice et de savoir un petit peu où est-ce qu'ils pouvaient se trouver, dans quel quartier de la ville pouvaient se trouver ces petits métiers.
La faune est bien sûr extrêmement intéressante, c'est le reflet bien sûr de ce que l'on mange. Qu'est-ce que l'on aurait donc comme animaux ?
Alors on a les animaux classiques, hein, le bœuf, le porc, les moutons et chèvres, ça on en a beaucoup, mais c'est classique. On a aussi pas mal de volailles, un petit peu aussi d'animaux sauvages. Et puis on tombe, l'avantage de fouiller ces grandes décharges publiques, c'est qu'on a les choses exceptionnelles. Et donc on a pu mettre en évidence l'arrivée de la dinde, puisque c'est un animal qui arrive du Nouveau Monde. Et Rouen, à cette époque-là, c'est le port de la France. Tout arrive à Rouen, donc tout ce qui vient des Amériques arrive à Rouen. Donc on a pour une fois la mise en évidence qu'il y avait de la dinde ici. Et également, on a un os de singe qui vient du Brésil. Donc là aussi, ça devait être un animal familier qui avait été ramené et qui devait être montré un petit peu à tout le monde puisque c'était les nouveaux animaux qui arrivaient en ville.
Vous faites des études spécialement justement sur ces dindes et sur ce petit singe ?
Oui, parce que l'avantage de pouvoir les avoir vraiment à Rouen, donc à l'arrivée, et donc il y a des études ADN qui sont en cours pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent exactement, de quelle espèce il s'agit, et pour les dindes, pour savoir, il y a quelques autres exemples en France, pour savoir si c'est à peu près la même espèce, et où est-ce que ça arrive, si c'est plutôt Amérique du Sud, si c'est Amérique centrale, est-ce que c'est des élevages? Si c'est toutes les mêmes espèces en France, donc c'est-à-dire que c'est des élevages plutôt français et après c'est redistribué, ou alors ça, c'est multiple et les dindes arrivent comme ça sur les bateaux. Donc c'est toute une nouvelle recherche. Maintenant on attend les résultats pour pouvoir cerner un petit peu plus l'arrivée de ces dindes.
Tout ça date à peu près de quelle époque ?
C'est la seconde moitié du XVIe siècle. Le tout début est la pleine période de la Renaissance.
Vous parliez de déblais. Vous auriez récemment découvert à Rouen une église totalement rasée.
Oui, on en trouve beaucoup. La ville de Rouen, c'est à peu près la ville aux 100 clochers. Il y a des églises et des monastères un petit peu partout. Beaucoup sont détruits à la Révolution. Et avec, malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, les rues ont été repercées, il y a beaucoup de constructions complètement nouvelles. Et donc, dès qu'il y a des travaux, de suivi de travaux, et c'est ce qu'on est en cours avec mes collègues, on retombe sur des monastères un petit peu oubliés, avec les murs d'église qui ressortent et tout ce que ça implique.
Sylvain Mazet, vous gérez l'ensemble de l'archéologie pour l'INRAP donc à Rouen. Aujourd'hui, il y a visiblement la ville a une politique de réaménagement. Donc, vous faites des opérations, bien sûr très vastes, mais aussi très ponctuelle un peu partout, ce qui est très intéressant pour vous.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de la réfection du centre-ville, l'élargissement des voies piétonnes, on est amené à intervenir dans beaucoup d'endroits, notamment sur des poubelles enterrées qui sont en cours de creusement. Donc on intervient en surveillance de travaux et ça nous donne la possibilité d'avoir une vision sur une vingtaine d'endroits différents, de manière très localisée, mais nous permettant de descendre jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et donc d'essayer d'atteindre des niveaux que l'on généralement n'a pas l'habitude d'avoir dans des fouilles moins profondes, on va dire.
Serge Lemao, nous sommes dans une rue assez étroite, devant ce qui est un restaurant, le Florian pour ne pas le nommer, mais nous sommes aussi sur une sorte d'archéologie du bâti au travers d'un très très beau monument.
Oui, nous sommes rue Thomas Corneille, où il est bien connu que dans les deux restaurants qu'il y a dans cette rue, on peut voir des vestiges du projet de l'hôtel de ville Le Carpentier, qui est un projet d'hôtel de ville énorme du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il était demandé à cet architecte de voir si l'hôtel de ville qui était utilisé, qui était à côté du gros horloge, dont la dernière partie était du XVIIe siècle, donc il lui a été demandé de voir si c'était encore utilisable et agrandissable. Et il a déclaré que non, et donc il a prévu de faire un très très grand projet qui devait relier l'Hôtel Dieu à la cathédrale en rasant une partie de la rue du Gros Horloge qui est bien connue à Rouen. Et lors des investigations dans la rue de Crône, juste au-dessus de la rue Thomas Corneille ici, on a pu avoir des morceaux de cet hôtel de ville pour les profondeurs de fouilles. Rouen est dans une cuvette qui longe la Seine. Donc régulièrement, dès l'époque gallo-romaine, on a fait des terrasses. C'est un peu ce qu'on peut voir ici. C'est que la rue Thomas Corneille est un peu plus bas que la rue de Crône. Donc là, du coup, on peut dans les deux restaurants voir les soubassements de cet hôtel de ville.
Sylvain Mazet, ce projet d'hôtel de ville date de Louis XV. Il est totalement abandonné ?
Oui, c'est ça, il est abandonné à la suite de la guerre de 7 ans, lorsque la France perd les possessions en Amérique et autres. Je pense que les budgets alloués sont perdus. Donc le projet est stoppé et je crois qu'ensuite c'est à aménager. Il garde les soumassements, bien sûr, et c'est aménagé en hangar. Et donc le projet est abandonné. On en garde une copie, justement, une maquette faite en chêne à l'époque lors de la présentation du projet à Louis XV qui l'a validé. Et donc cette maquette se trouve au Musée des Beaux-Arts à Rouen.
Amen Thoman. Au XIIIe siècle, on aurait une poussée démographique à Rouen ?
Oui, il y a une poussée démographique à Rouen, comme dans tout le royaume. Voilà, les cimetières deviennent un peu surpeuplés et on a besoin de nouveaux espaces pour inhumer la population. Donc on inhume à cet endroit, dans le quartier Martinville, autour de l'église Saint-Maclou. Et rapidement, le cimetière est saturé. Et on a besoin de nouveaux espaces, notamment aussi pour faire face à l'épidémie de grande peste noire qui frappe Rouen en 1348.
C'est à cette occasion que l'être Saint-Maclou est créé ?
C'est normalement à cette occasion que l'être Saint-Maclou est créé, le grand être. Hein. Donc on essaie de trouver de nouveaux terrains puisqu'effectivement il y a une surmortalité à ce moment-là. Après, a priori, les premiers terrains sont quand même achetés. Au niveau des textes, il y a des petites incohérences. Les premières mentions sont entre 1335 et les premiers achats sont 1355. Donc en fait, on est un peu avant et après. Mais tout de même, a priori, effectivement, la surmortalité liée à la grande peste noire a beaucoup à voir avec la création de ce grand être.
Qu'est-ce qu'un être et qu'est-ce que, bien sûr, un grand être dans ces cas-là ?
Un être, c'est un cimetière à galerie qui vient du mot atrium, hein, donc une cour carrée avec galerie où, effectivement, il y a des inhumations, des charniers et des ossuaires qu'on met dans les galeries.
Aminte Thoman, vous avez fouillé ici, bien sûr, d'ailleurs avec l'université de Caen. Vous avez eu combien de tombes ?
Alors, on a pu fouiller avec effectivement une fouille chantier école de l'université de Caen sur 2 années, 2017-2018, sur une zone assez restreinte quand même, mais on a pu fouiller au moins 400 individus sur environ 30 à 40 mètres carrés et à peu près 1,50 m de profondeur. Donc vous pouvez imaginer la densité de squelettes qu'il y a sous le sol de l'aide Saint-Maclou.
400 personnes, c'est bien sûr un volume très important d'individus. On peut penser toutefois qu'il y en aurait eu des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers.
Cette densité qu'on a pu avoir au centre de l'être, mais aussi sous les galeries, montre bien évidemment qu'il y a au moins plusieurs milliers d'individus. Après, il faut voir si la densité est la même partout, mais a priori, c'est le cas. Donc oui, on peut tout à fait estimer, sans trop se tromper, qu'on a au moins plusieurs milliers d'individus sous l'être Saint-Maclou.
On avait des endroits privilégiés, par exemple le centre de cette grande cour dans laquelle nous sommes.
Au niveau profondeur, effectivement, la stratigraphie est très très importante au centre de la cour. On n'a pas forcément pu aller beaucoup plus loin dans d'autres endroits, mais sous les caves sud, on a effectivement une profondeur moindre, mais quand même beaucoup d'individus.
Comment sont les corps ?
Plutôt bien conservés, même si très recoupés, très effectivement avec cette densité funéraire, on a parfois plus qu'une jambe en connexion ou un haut de corps avec le crâne et les vertèbres cervicales. Mais on a quand même quelques corps complets, hein, heureusement. Alors, ils sont très bien conservés au niveau osseux, mais voilà, très partiels.
Et ça, vous pouvez le reconstituer parfaitement, l'histoire, la micro-histoire de ces corps associés au cours du temps.
C'est toute l'observation, ce qu'on appelle les analyses taphonomiques sur le terrain, hein, bien évidemment, c'est le gros travail à faire sur la fouille, puisque tout le pan biologique peut être fait après en post-fouille. Mais effectivement, on travaille sur des fiches anthropologiques pour bien comprendre comment ces individus étaient positionnés, comment ils ont été recoupés, par qui. Ça, c'est vraiment tout le travail stratigraphique de l'archéologue, de l'archéo-anthropologue. Donc, on peut pas avoir toutes les informations. Parfois, on sait que ces individus sont recoupés, mais on ne sait pas par qui, parce que parfois il n'y a même pas de squelette à côté. C'est toute l'histoire d'un site funéraire qui est sur 4 siècles, hein, quand même. Bien sûr qu'on a beaucoup d'informations, mais c'est toujours pareil, on ne les a pas toutes.
Quelle est l'évolution de ce site ? Vous me parlez de 4 siècles d'inhumation. Il s'achèverait à quel moment ?
Alors, au niveau funéraire, la dernière inhumation a lieu en 1782. Hein, on arrête l'activité funéraire, le site continue, notamment ce sont des écoles. Et puis après, il y a toute la vie des bâtiments. Mais en ce qui concerne le cimetière, effectivement, on a 4 siècles d'évolution qui sont assez mal connus d'ailleurs, hein, entre le 14e et le 18e siècle. C'est bien pour ça qu'on a fait des fouilles et qu'on va pouvoir affiner un petit peu sur certaines périodes. Mais le site continue, bien évidemment, après le 18e siècle.
Et vous voyez l'évolution des pratiques funéraires ?
Entre le 14e et le 18e siècle, les pratiques funéraires évoluent, mais en fait, on a quand même, c'est l'époque chrétienne, hein, donc la plupart des individus sont inhumés sur le dos, souvent tête à l'ouest, pas exclusivement, mais quand même souvent. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on a pu trouver, c'est qu'on a pu observer ce qu'on appelle des fosses communes, qui seraient datées du 15e et 16e siècle. Donc au sein de nos 400 individus, on a quand même pu observer 4 fosses, avec plusieurs individus inhumés au même moment, et qui sont fort probablement liés à des épidémies.
Vous avez une date, visiblement, 1297-1409. On tombe là dans la fameuse grande peste de 1348.
Oui, alors ça, c'est plutôt des niveaux qu'on a pu observer dans la galerie sud de l'Être. Et effectivement, ça serait une première extension du cimetière du 14e siècle. Donc, au niveau du centre de l'Être, on a vraiment des niveaux quand même plus récents, qui sont 15e jusqu'au 18e siècle. On n'a pas pu atteindre les niveaux les plus anciens.
Donc les tombes de pestiférés que vous auriez ne dateraient pas de cette fameuse peste de 1348 ?
Tout à fait. On a pu faire une analyse, qu'on appelle une analyse paléomicrobiologique sur un squelette en 2016 lors du diagnostic. C'est un squelette du 15e siècle et qui aurait des fragments d'ADN qui correspondraient à ceux de la peste. Donc on va développer ces analyses-là sur d'autres squelettes de notre fouille. Et voilà, donc effectivement, on n'est pas dans le cadre de la grande peste noire, mais ce n'est pas vraiment un problème puisqu'on sait que les grandes épidémies telles que la peste ont des redits très régulièrement qui sont documentés par les textes et qu'il y ait de la peste au 15e, voire 16e, c'est fort possible.
Amen Thoman, nous sommes donc sur un cimetière paroissial, mais la fonction de l'être, c'est d'être essentiellement un gigantesque ossuaire. Comment passe-t-on de la tombe à justement cet ossuaire-là ?
En effet, on est d'abord dans un cimetière, alors peut-être parfois au départ un cimetière épidémique, hein, et puis qui devient rapidement un cimetière paroissial. Et effectivement, la densité de squelettes nous fait comprendre qu'il y a une activité très 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 dense. Et les fossoyeurs sont obligés de réoccuper l'espace, même si parfois, normalement, on ne devrait pas recreuser dans une ancienne tombe, mais on sait que ça se fait depuis longtemps. Et en effet, sans doute que les ossements sont récupérés et mis sous les combles, parfois visibles d'ailleurs, et notamment sont parfois rangés et avec des alignements de crâne, ce qu'on peut voir dans une enluminure, à la vue de tous, en effet, c'est une des fonctions.
Ces os, ils étaient donc dans les galeries supérieures, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ?
A priori, ils ont été déplacés au Mont Gargan. Mais c'est très peu documenté également. Je sais qu'il y a quelques dizaines d'années, il y avait encore des espaces où il y avait encore quelques petits ossuaires qui avaient été retrouvés, mais tout a disparu.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Amin Thoman, cette étude 400 corps, c'est bien sûr voir qui sont les populations qui ont été recrutées, femmes, hommes, enfants, riches, pauvres.
Oui, ça va être vraiment l'ensemble de l'étude de ces individus va être très intéressant. D'une part parce qu'on a plusieurs sites, donc on a le centre de l'être, on a sous les galeries, donc on va quand même pouvoir comparer ces groupes. Et puis bien évidemment, c'est le recrutement, savoir qui est cette population. Alors on a que 400 ou 500 individus sur des milliers, hein, donc ça reste un échantillon, un petit échantillon même. Mais c'est suffisamment nombreux pour quand même avoir des résultats intéressants, notamment sur effectivement la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants, une certaine sectorisation où étaient à peu près les gens et également les conditions de vie. Ça, c'est vraiment très intéressant avec toute l'analyse paléopathologique, l'observation des lésions de toutes sortes, infectieuses, tumorales, dégénératives, tout ça. Donc ça, c'est une étude qui va être très approfondie pour essayer de mieux comprendre. On a vu pas mal de choses sur le terrain et ça va être confirmé en laboratoire, essayer de bien comprendre les niveaux de vie, les conditions sanitaires et les conditions, ce qu'on appelle épidémiologiques, donc tout l'impact des grands pathogènes, des grandes épidémies.
Alors dans les épidémies, on sait que ça fauche tout le monde, donc on peut imaginer que vous avez de l'enfant au vieillard, du riche au pauvre. Dans le cimetière, là, les choses peuvent être différentes. Est-ce que l'on aurait, par exemple, des enfants de très bas âge ?
Alors, on a des enfants de très bas âge partout, mais particulièrement sur les niveaux les plus récents, parce qu'en fait, on inhumait moins profondément les bébés. Et notamment en 2016, quand on était venu pour le diagnostic, les premiers individus qu'on pouvait trouver, c'était des bébés qui ont été beaucoup touchés par le rachitisme, qui ont vraiment eu des mauvaises conditions, et qui en sont morts, évidemment. Bon, effectivement, les grandes épidémies touchent sans vraiment sélectionner, ou très peu. Mais ensuite, il y a quand même les conditions de vie, les conditions sanitaires, et c'est là où on trouve du scorbut, du rachitisme. Donc on n'est pas dans le cadre des grandes épidémies, on est dans le cadre de la vie quotidienne des gens du 15e, 16e, 17e siècle, hein, hors épidémie. Mais on a beaucoup d'informations également sur leurs conditions sanitaires, ça c'est vraiment intéressant. Et c'est des pôles qu'on va vraiment vraiment développer par des analyses annexes.
La fin de ce cimetière, c'est essentiellement pour des raisons, donc dans les années 1880, pour des raisons hygiénistes ?
C'est surtout 1780, les dernières inhumations. Oui, sans doute, effectivement, éloigner un petit peu les cimetières des centres-villes. Et puis, il n'y a plus de place. Très très clairement, il n'y a plus de place. Et le site est une école depuis plus de une centaine d'années. Et je pense qu'en effet, voilà, il est de bon ton d'éloigner la mort et effectivement le cadavre et tous les problèmes associés d'un lieu de vie, évidemment.
Hélène Hénaud, au XVIIIe siècle, le cimetière ferme, mais le bâtiment subsiste avec de très belles décorations macabres.
Oui, en effet, l'être subsiste puisqu'il abrite d'autres fonctions que l'être également depuis quasiment l'origine. Mais c'est bien évidemment en tant que cimetière et cimetière charnier qu'il est identifié avec ses décors macabres qui habillent toutes les façades, notamment les ponts de bois, les sablières des ponts de bois. Donc on reconnaît tout le vocabulaire lié aux inhumations. On a plusieurs parties des squelettes qui sont représentées, des crânes, des osselons. Le matériel pour inhumer aussi, hein, on voit les pelles, les pioches, des cercueils. Donc on a vraiment un vocabulaire très riche de la Renaissance qui décrit toute l'activité liée autour des inhumations.
Datation exacte, vous arrivez à le dire ?
Alors, on arrive à dater très précisément ce type d'édifice puisqu'on a la chance qu'il soit à pans de bois. Et le bois, grâce à la dendrochronologie, c'est-à-dire la mesure des largeurs de cernes, permet de dater quasiment à la saison près lorsque l'aubier est complet.
Abin Toman, puisque vous êtes anthropologue, vous reconnaissez les os qui sont dessinés, gravés sur ces poutres de bois ?
Oui, c'est assez incroyable. Effectivement, les os sont très reconnaissables. On a vraiment l'impression que les sculpteurs avaient voyé tout à fait les os très distinctement. Les crânes sont très bien faits. On voit des mandibules, hein, des mâchoires. On arrive à reconnaître des humérus, les fémurs, et puis même des omoplates, des os coxaux. Donc on a vraiment effectivement une très grande précision des ossements, donc c'est assez fabuleux.
Enfin, c'est les têtes de mort qui règnent quand même.
Oui, effectivement, hein, les têtes de mort, les crânes, ils ont des styles tous différents. Et on voit qu'il y a chaque sculpteur doit avoir une patte particulière. Effectivement, au-dessus de chaque colonne trône un crâne de face. Donc on peut déambuler dans l'être et s'arrêter à chaque colonne et regarder à chaque travée, c'est incroyable.
Alors l'être, c'est donc un bâtiment avec son cimetière au centre. Ensuite, quatre bâtiments avec des galeries dans lesquelles on peut circuler. Et puis des séries de colonnes très belles sculptées.
Oui, alors c'est, faut imaginer un cloître en fait, avec le cimetière au centre dans la cour. Donc les galeries, on peut effectivement y circuler, elles ne sont pas fermées au départ. Cependant, on a quand même deux chapelles. Une dès l'origine, la chapelle des morts qui se situe dans l'aile nord. Et une autre au XVIIe siècle, la chapelle Saint-Michel dans l'aile sud, en face de la première. Donc c'est aussi des lieux où on a un culte en fait qui est rendu lié aux inhumations. Et puis rapidement, ces galeries-là, qui sont juste couvertes d'un comble où on entasse les ossements, qui servent donc d'ossuaire, ces galeries vont être petit à petit fermées puisqu'il y a une nouvelle fonction qui apparaît au XVIIe siècle, ce sont les écoles, qui viennent en même temps que le cimetière est encore en activité. Hein, c'est ces deux activités qui sont concomitantes et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur et qui vont amener à transformer le bâtiment au cours du temps.
Alors vous êtes architecte, mais vous êtes aussi archéologue du bâti. C'est-à-dire que vous allez regarder, en grattant peut-être un petit peu les murs, d'essayer de voir l'évolution de ce bâtiment.
Alors en fait, en archéologie du bâti, on pratique une fouille des élévations, c'est-à-dire que comme dans le sous-sol, on va enlever strate par strate. Donc on va dégrader progressivement les différentes couches d'enduit. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment la structure primitive a été agencée, de remarquer des anomalies, des incohérences, notamment dans les pans de bois, ça peut être des traces de bois qui n'ont plus rien à faire dans la structure actuelle, donc qui ont des traces de mortaises, de tenons, de chevilles, etc., qui ne correspondent pas du tout à l'assemblage actuel. Et donc de se poser la question, s'ils sont en place aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils peuvent provenir ? Est-ce qu'ils proviennent d'une première structure qui a été démontée ? Et donc l'objectif principal, c'est d'identifier des phases de travaux principales qu'on va ensuite pouvoir dater par dendrochronologie, et ce qui va permettre de confirmer ou non l'évolution qu'on a perçue, la chronologie relative qu'on a perçue au sein de l'être.
Alors ce bâtiment, est-ce qu'il est homogène ?
Alors ce bâtiment-là n'est pas du tout homogène. Il peut sembler très unifié dans son décor et dans sa structure à pans de bois, mais il est constitué de plusieurs phases de travaux au fil des siècles, depuis le XVIe siècle, donc depuis 1526-27, donc l'édification de la galerie ouest, jusqu'à nos jours, on pourrait dire, puisqu'il est restauré en ce moment, mais principalement jusqu'au milieu du XIXe siècle, on a les grosses phases de restauration.
Vous y avez vu aussi des événements divers et variés ?
Oui, alors notamment, on a mention d'un incendie en 1758 qui aurait brûlé entièrement l'aile sud. D'ailleurs, les archives nous disent bien qu'une aile est quasiment intégralement détruite. Et lors de l'étude, on a remarqué que ce n'était pas tout à fait la vérité, puisque cet incendie qu'on a bien identifié et bien localisé ne concerne qu'un angle du bâtiment. Donc les bois là ont été datés et prouvent que l'aile sud qui était censée être détruite est bien en place, bien d'origine, bien du milieu du XVIIe siècle, et que ce n'est qu'une extrémité en fait qui a été touché par le feu.
Alors pourquoi avoir dit que le bâtiment était totalement brûlé, du moins cette aile ?
Alors ce sont les petites incohérences qu'on trouve parfois entre les sources écrites et puis la réalité archéologique. On ne peut pas l'expliquer, néanmoins on a des petites hypothèses à ce sujet. À ce moment-là, l'être est en travaux. En fait, le curé qui est en charge des travaux dans l'être, le curé S. Mangard, a pour le projet de démonter les combles où étaient les ossuaires pour créer un vrai étage pour accueillir des classes supplémentaires puisque l'école se développe vraiment à ce moment-là. Malheureusement, pendant ces travaux-là, il y a un incendie qui se déclare et on se dit que lui a peut-être intérêt à déclarer des dégâts plus importants pour toucher plus de subventions et pouvoir venir à bout de ces travaux.
Ça reste un bâtiment, pour vous qui êtes architecte, un bâtiment exceptionnel ?
Ah, c'est un bâtiment qui est unique en France, en Europe, peut-être même dans le monde, puisque des cimetières charniers à ossuaires, il en existait quand même beaucoup, qui ont quasiment tous été démontés aujourd'hui. Il y en a très très peu qui existent. Et ici en plus, on a la chance d'être à Rouen avec des décors macabres de la première Renaissance, dont Rouen est l'une des écoles qui va permettre le développement de cet art-là. Donc c'est vrai que malgré en plus les différentes évolutions de l'être, on a su toujours conserver ces décors macabres et ils ont toujours été réutilisés, même si on avait eu besoin de les déposer pour agrandir. On a toujours pris soin de les reposer. Donc on aboutit aujourd'hui à quelque chose qui, malgré les évolutions, reste très homogène dans son décor.
Sylvain Mazet, l'archéologie et l'être, du moins l'archéologie dans l'être, a eu quelques surprises, vous avez trouvé quelque chose de tout à fait curieux ?
Oui, tout à fait. L'entrepreneur en charge des travaux de restauration nous a contacté, nous a remis une boîte en plomb qui avait été trouvée enchâssée sous une des colonnes au niveau d'un des murs bahuts. Et donc, on nous a demandé de procéder à l'ouverture ce qui semblait être une boîte temporelle, time capsule. Et donc, on l'a ouvert, la boîte a été sciée. Et on a retrouvé, effectivement, c'est Paola qui est intervenue. Et elle va vous dire ce qu'on a trouvé.
Alors Paola Calderoni, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte et de quelle époque date-t-elle ?
On a découvert une couche de charbon qui protégeait une plaque de cuivre sur laquelle étaient inscrits les noms des intervenants d'une phase de restauration qui a eu lieu en 1859. On a également trouvé quelques pièces de monnaie, de petites monnaies, et n'avait pas mis des pièces très, très riches et de métaux précieux, et un papier de soie qui protégeait la plaque de cuivre.
C'est une plaque commémorative ?
Oui, absolument, c'est la plaque commémorative d'une phase de travaux qui a consisté à restaurer tous les soubassements, tous les murs bahuts de l'être qui s'était un peu affaissé sous le poids de l'étage rajouté au XVIIIe siècle.
Carbone 14 est réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Manon Houssin et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr la semaine prochaine. Départ pour Saint-Pierre de la Martinique.